من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc, soyez les bienvenus dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à cette occasion, qu'Allah vous aime et nous compte yani, parmi ceux qui profitent de la science qu'il a révélée, subhanahu wa ta'ala. Donc, les sœurs, qu'Allah les bénisse, ont choisi donc le thème de cette rencontre bimestrielle, comme son nom l'indique, donc c'est tous les deux mois. Mais alhamdoulilah, il y a bien d'autres activités et vous vous occupez, inshallah, il y en a assez, on espère dans le bien. Mais c'est une occasion, celui qui vient pour enseigner ou pour apprendre. Dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui compte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui compte comme un pèlerinage complet et accepté. Donc ne serait-ce que pour cela, alhamdoulilah, ça vaut le coup, il y en a de passer l'après-midi avec ses frères et ses sœurs. Ensuite, comme vous le savez également, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui se réunissent dans une des maisons d'Allah, subhanahu wa ta'ala, recherchant donc sa face, dont on va parler, sa face noble, les anges les entourent donc de la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont yani, dans sa proximité, à savoir les anges rapprochés. Yani, qu'Allah les bénisse tous. Donc, ceci dit, on va commencer maintenant, inchallah, la causerie sur le sujet que les sœurs ont choisi. Et cette année, inchallah, les autres années aussi, mais surtout cette année, entre l'invocation, entre la sincérité et le reste, je pense qu'elle touche vraiment à l'essentiel. La sincérité, c'est vraiment l'essentiel. Et comme c'est dit, la sincérité, c'est l'une des conditions d'acceptation des œuvres. Donc, après avoir su que les œuvres ne sont qu'un prétexte, et qu'Allah n'a besoin de rien. Et que pour pouvoir faire les bonnes œuvres, c'est avant tout Allah subhanahu wa ta'ala qui t'y fait penser, puisque c'est lui qui le crée, qui crée l'intention, qui crée la détermination dans ton cœur pour que tu puisses la faire. Combien de gens sont dans une situation qui est moins bonne que la vôtre aujourd'hui? Demain, certainement, ils vont le regretter. Je ne dis pas que tout le monde doit être là, mais je veux simplement dire, s'il y a mieux à faire, alhamdoulilah. Mais s'il n'y a pas mieux à faire, c'est simplement ce shaitan qui t'empêche yani, de t'occuper de ce pour quoi tu as été créé, à savoir Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Et l'adoration, yani, l'exemple, enfin, la meilleure définition que j'ai entendue, que retiennent les savants, c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée. Que Allah aime et agrée. Donc, cette adoration, tout s'y inscrit, au point que le prophète sallam nous a dit, tout est sadaqa, subhanallah sadaqa, alhamdulillah sadaqa, la ilaha illallah sadaqa, aider quelqu'un pour porter quelque chose ou monter sur sa monture, c'est une sadaqa. Il a dit, jusque dans le rapport conjugal, c'est une sadaqa. Pourquoi? Parce que l'intention est là. Tu le fais pour quoi? Tu le fais pour Allah ou tu le fais pour dire que je suis gentil, moi? Non, c'est quelqu'un de très gentil, très bien. Et c'est par ce hadith que je veux commencer, inshallah. C'est que le prophète sallam nous a dit les trois premiers combustibles de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. C'est un hadith qui est authentique. Les trois premiers combustibles de l'enfer, pour que les gens sachent que la chose sera vraiment dure, c'est quelqu'un qui a donné sa vie, qui a participé au djihad, avec la définition que les savants donnent, et qui est mort. Allah va le faire comparaître. Il va lui demander, bien qu'il sache avant de l'avoir créé, à quoi tu as consacré ta vie. Il dit, Allah, tu as envoyé une belle religion. Et j'ai donné ma vie pour cela. Et Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens, tu n'as fait ça qu'afin qu'on dise, voilà quelqu'un de courageux. Et ça, ça a été dit dans ce bas monde. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait pour autre que Allah, Allah ne l'accepte pas. On va le traîner sur l'ordre d'Allah, sur la face, et il sera jeté dans l'enfer, en ordre de. Un second qui a appris la science et le Coran. Et Allah va lui demander, bien qu'il sache avant de l'avoir créé, Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit, Allah, tu as fait descendre ta parole. Merveilleuse. Je l'ai apprise. Je l'ai enseignée. Pour toi, Allah dira, tu mens. Les gens diront, tu mens. Tu n'as fait ça qu'afin qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaît le Coran. Ou là, voilà un savant. Ça, ça a été dit dans ce bas monde. Sur moi, tu n'auras que l'enfer. Il va être traîné sur la face. Il va être jeté en enfer. Donc, ce sont des musulmans. Ce sont des gens qui ont fait des choses que les gens considéraient comme du bien. Le troisième, c'est celui que Allah a favorisé. Il lui a donné un peu de richesse. Et Allah seul est le riche. Et nous sommes tous pauvres. Et Allah lui a confié pendant peu de temps un peu de richesse. Allah va lui demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie, bien qu'il le sache avant de l'avoir créé. Il dira, Allah, tu m'as favorisé. Et tu m'as donné beaucoup de choses. Et j'ai dépensé matin, midi et soir pour ta cause. Allah dira, tu mens. Les anges diront, tu mens. Et tu n'as fait ça que pour qu'on dise quelqu'un de généreux. Et ça a été dit dans ce moment. Et aujourd'hui, chez moi, tu n'auras que l'enfer. Il va te traîner sur la face, il va te jeter dans l'enfer. Et ensuite, les autres cas seront réglés. Ça, c'est trois cas. Qu'Allah nous pardonne. C'est parce qu'on ne sait pas qu'Allah sait tout. Allah sait. Je ne vais pas répéter ce qui a été, ce qui sera, ce qui est. Si ne sera pas, si ce qui n'est pas, si ça avait été, ce que ce serait. Mais Allah sait avant de nous avoir créés. Et donc, ce qu'ils appellent le subconscient, c'est comme ça qu'ils traduisent, ceux qui ne savent pas. Le subconscient, ce que tu vas penser, ce qui est au fond de toi, Allah le sait. Pourquoi tu l'as fait, Allah le sait. Pourquoi tu t'es abstenu de faire. Tu peux argumenter devant qui tu veux, ce que tu veux. Mais Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sait le fond des choses. Et un homme parmi les meilleurs, Usama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a participé à une bataille. Et donc, il a désarmé son ennemi. Il a dit, « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » J'atteste que Allah seul mérite l'adoration et j'atteste que Muhammad est son messager, qu'Allah le bénisse. Et Usama l'a tué. Et quand il est revenu de la bataille, la nouvelle est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, « Usama, tu l'as tué ?» Il dit, « Oui. » Parce que il m'a combattu. Il voulait me tuer et je l'ai tué. Mais c'est juste quand je l'ai désarmé qu'il a dit, « J'atteste que Allah seul mérite l'adoration que Mohammed est son messager. » Il n'a fait ça que pour sauver sa vie, pour sauver sa tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Et tu l'as tué. » Et il a dit ça et tu l'as tué. Et il a dit ça et tu l'as tué. Et comme il le dit à la fin du hadith, j'aurais aimé n'avoir embrassé l'islam qu'à ce moment-là. C'est-à-dire que qu'Allah m'ait pardonné tout le... Mes bonnes actions, n'en parlons même pas, si j'en ai. Il a dit, pourquoi tu n'as pas ouvert son cœur pour savoir pourquoi il l'a fait. Donc notre sujet, c'est ce qui est dans le cœur. Que Allah seul sait. Et dans toi, tu peux témoigner. Tu es le mieux à savoir parmi les hommes, c'est ce pourquoi tu l'as fait. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien, il dit dans un hadith Qudsi, dans un hadith saint, il a dit, je suis riche. Il est le seul riche, subhanahu wa ta'ala. Et je me passe de tout. Celui qui, dans une action, m'associe quelque chose, je laisse à celui qui m'a acquis, celui qu'il m'a associé, je lui laisse toute la chose. Allah n'accepte donc pas que tu fasses une chose pour lui et pour quelqu'un d'autre. Et ceci, c'est l'une des formes d'association. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'association qui a, comme vous le savez, deux formes en général. On va jusqu'à 15 dans ce livre, Al-Qawl al-Mufid, leçon de Tawhid, vous pouvez le regarder. Il cite, le cheikh, il cite 15 formes de shirk. On va pas arriver, on va dans ces formes, il y a juste, on parle généralement de deux formes. Le shirk majeur, l'associationnisme, l'association majeure, et l'association mineure. Ce qui ne veut pas dire mineur, ça ne veut pas dire que c'est pas grave. L'association mineure, c'est beaucoup de formes, parmi lesquelles il y a le riya, l'ostentation. Le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit à ses compagnons, et ce que vous savez qui sont ses compagnons, c'est la meilleure génération. Les meilleurs gens, il a dit, c'est ceux de mon siècle. Et ensuite, ou de ma génération, ensuite de la génération qui suit, ensuite la génération qui suit. Et le narrateur s'est arrêté là. On ne sait pas s'il y a une quatrième génération ou pas. Il a hésité, il a dit, donc ce sont les trois meilleures générations. Et donc, il a dit à ses compagnons, qu'Allah les bénisse tous, ce que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Ils ont dit, c'est quoi l'association mineure? Il a dit, Ar-Riya, c'est-à-dire l'ostentation. Au jour du jugement dernier, Allah dira aux gens, allez-y, recherchez la récompense auprès de ceux pour qui vous avez fait l'affaire. Vous avez fait la chose. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait je ne sais quoi d'autre, des choses que les gens ont considérées comme de très belles choses. Allez-y chercher la récompense de ceux pour qui vous avez fait la chose. Et comme Allah seul, subhanahu wa ta'ala, récompensera ce jour-là, ça veut dire que la récompense est nulle. La récompense est nulle. Une adoration par laquelle on veut se rapprocher d'Allah et dans laquelle on a associé quoi que ce soit à Allah, c'est une association qui est nulle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait, comme le disent les savants, pour ses compagnons, pas pour nous. Nous n'en parlons pas. Ce sont les meilleurs hommes à ne pas, à n'en pas douter. Ils craignaient pour eux. Pourtant, Allah les a choisis pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils craignaient pour eux. L'association mineure, et donc toi qui penses être à l'abri de ça, c'est que Shaitan t'a fait oublier. Et certains disent que le meilleur stratagème de Shaitan, c'est de se faire oublier. Et donc tu vas te retrouver dans ta prière, tu vas te retrouver en donnant, tu vas te retrouver en faisant le bien apparent, et en réalité tu le fais pour qu'on te voie. Comme on a vu, c'est les trois premiers combustibles de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Et toute action qui a été faite pour Allah et autre que Allah, Allah n'accepte pas l'action. Ne nous méprenons pas. Ça ne veut pas dire que j'ai fait ça et on m'a vu, ou j'ai fait ça et on m'a félicité, ou j'ai fait ça et on a pensé du bien. Comme l'a dit le prophète sallam, ça c'est plutôt une avance que Allah a donnée. Celui qui fait, nous sommes les témoins d'Allah sur la terre. Nous sommes les témoins d'Allah sur la terre, a dit le prophète sallam, c'est-à-dire que quelqu'un qui aime Allah et que Allah aime, Allah fait que il appelle Jibril, il y a Jibril, j'aime un tel, aime-le. Jibril descend dans les cieux et dit aux anges, aimez-le, Allah l'aime. Et les anges se répartissent sur la terre et sur la mer pour inspirer l'amour de la personne. Donc les gens aiment la personne. Les gens vont dire, voilà quelqu'un de bien, ils devraient dire, voilà quelqu'un de qui on pense du bien. Parce que Allah seul sait s'il est bien ou pas. Et ce que je crains pour moi et pour vous, le prophète m'a dit dans un hadith rapporté par les musulmans, en tout cas consigné là, il a dit, celui qui fait autre chose, des choses autres que pour Allah, Allah va le dévoiler. Allah va le dévoiler. Il peut être à l'article de la mort, tout le monde peut penser qu'il est bien. C'est pour cela que le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, certains disent, mais comment se fait-il que la conception de l'un d'entre vous est faite comme une étape, vous savez, 40 et ensuite 40, ensuite 40. Ce qui m'intéresse, c'est la fin du hadith, l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et la mort que ça, le destin va se réaliser et il va faire des actes des gens de l'enfer s'il est destiné à ça, et vice versa. Comme les gens on a vu à la dernière minute, il y en a qui ont fait l'attestation de foi et qui sont morts comme ça. Comme les gens on a vu, et à la dernière minute, ils sont sortis de l'islam en a'oudhou billah. Allah est juste, ce n'est pas du tout... Il ne faut jamais penser le contraire. Allah est juste, c'est le seul juste, puisqu'il sait tout. La justice, l'injustice, comme on le sait et vous le savez, c'est le fait de prendre le droit de quelqu'un. Allah est trop élevé pour prendre le droit de quelqu'un. C'est lui qui l'a guidé. C'est lui qui l'a poussé. Tout ce qu'il a fait, c'est Allah qui l'a créé. C'est Allah qui l'a incité à faire le bien, qui l'a protégé de tout. Comment tu veux que ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, yani, vienne lui prendre quoi que ce soit? On ne peut pas dire, c'est parce qu'on ne connaît pas Allah qu'on peut penser ça. Shaitan va te l'amener. Non. Si Allah l'a fait, c'est que c'est ce qu'il mérite. Si une chose nous traverse l'esprit dans l'injustice, ou une chose qu'on ne comprend pas, et Allah seul sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, dis-toi, Allah est juste. Je ne comprends pas, et qui es-tu pour comprendre, mais Allah est juste. Et donc, on disait que la personne qui a fait quoi que ce soit qui cache son jeu. Tu peux tromper tout le monde, tu ne peux pas tromper Allah. Et Allah, qui est juste, va faire qu'il y aura des témoins contre toi pour prouver effectivement que tu n'étais pas sincère. Un jour meilleur qu'aujourd'hui. Il y a eu une bataille. Le professeur Salam a dit, celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qui suit celui-là. Quelqu'un qui croyait en Allah et croyait au professeur Salam, il n'en doutait pas. Mais il s'est dit, celui-là, je vais le suivre des yeux. Il n'a pas quitté des yeux pendant toute la bataille. Qu'est-ce qui va l'amener en enfer, celui-là? Il s'est battu comme un lion, on dirait. Et à la fin, il a été mortellement blessé. Et il n'a pas supporté, il s'est donné la mort. Celui qui l'a observé a été voir le professeur Sallam, il lui a dit, j'atteste que Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que Mohammed, j'atteste que tu es son messager. Il dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu le répètes? Il dit, parce que l'homme que tu as dit qui va aller en enfer, je l'ai vu se battre comme un lion. Et ensuite, quand il a été blessé, il s'est donné la mort. Or, comme vous le savez, le suicide dans l'islam, non seulement il est interdit, mais la personne sera en enfer et sera châtiée par ce par quoi elle s'est donné la mort. Bien sûr, on ne parlait pas de suicide avant, chez les anciens, chez les musulmans. Aujourd'hui, malheureusement, on est devenu comme tout le monde. Et des suicides, on en entend parler, on a même prié sur les gens. On ne dit pas que la personne n'est pas musulmane, mais elle a fait un très grand péché. On prie sur elle, et dans les pays musulmans, on dit qu'on va l'amener, et je ne dis pas les va-nu-pieds, l'homme du commun va prier, mais pas les gens nobles, ou les gens en tout cas de qui on pense du bien, force ni les imams, ni les savants, pour justement décourager les gens, pour que les gens ne le prennent pas comme exemple. Donc celui qui se suicide a mérité l'enfer. Et il sera châtié par ce par quoi il s'est suicidé. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est pas possible, c'est un vaillant, il a fait ceci, il a fait cela. Bien sûr, mais Allah sait. Allah sait. Et toi, tu ne sais pas. Et encore une fois, on revient à la connaissance d'Allah. Celui qui connaît Allah, certainement, c'est ce qui y craint. Allah loue ces gens dans la sourate 23 en particulier, verset 60, si ma mémoire est bonne, les gens qui craignent leur Seigneur et craignent la rencontre de leur Seigneur. Quand notre mère Aïcha a demandé au professeur cela, mais est-ce que ce sont des gens qui ont volé? Est-ce que ce sont des gens qui ont menti? Etc. Il a dit non, aux filles du très véridique, ce ne sont pas ces gens-là. C'est des gens qui ont prié, c'est des gens qui ont jeûné, c'est des gens qui ont fait de bonnes actions, mais ils craignent que Allah ne l'accepte pas. Ils craignent que Allah ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'ils craignent leur âme. Rien que l'âme ordonne le mal, exception faite de ceux à qui Allah a fait miséricorde. Shaitan, il surfe sur l'âme. L'âme, par définition, sauf exception, va t'ordonner du mal. Shaitan, il va essayer de t'empêcher de faire le bien. Sinon, de le retarder. Et quand tu veux faire le bien, il va quand même s'immiscer dedans. On dit qu'un homme était en train de prier et fait de la prière du coq, et que Omar ibn Khattab est rentré et il s'est mis à bien prier. Mashallah, le recours, le soujoud. Tu le prendrais comme exemple. Quand il a terminé, Omar l'a appelé, l'aurait appelé, et il dit, ta prière n'est pas valable. Ni au début, avant que tu ne vois Omar, ni après Omar. Avant que tu vois Omar, il y a le Tom'anine, la quiétude qui fait partie des piliers de la prière que tu n'as pas, puisque tu as fait comme le coq. Le professeur a dit, il a enseigné à sa communauté comment faire la prière au travers du hadith connu de l'homme qui est rentré un jour meilleur qu'aujourd'hui, qui est venu saluer, il a fait deux rak'a, il est venu saluer le professeur sallam, qui lui a rendu son salam, bien sûr, et qui lui a dit, va prier parce que tu n'as pas prié. Et donc il a été prié et il est revenu, il a dit passez le salam et le professeur salam a dit va prier parce que tu n'as pas prié. Il est revenu la troisième fois, il a salué le professeur salam qui lui a rendu le salam et il a dit va prier. Il dit par celui qui t'a envoyé, je ne sais pas plus que ça. Alhamdulillah, qu'Allah l'agré. Au moins, il lui savait qu'il ne savait pas. Et le professeur salam lui a expliqué, c'est là où les savants ont tiré un certain nombre de leçons dans les piliers de la prière, parmi lesquels le fait que et tu te redresses ou tu te prosternes jusqu'à ce que tous tes membres viennent à leur place. Et ça, c'est la deuxième condition. Celui qui fait autre chose que le prophète sallam, Allah ne l'accepte pas. Allah l'a envoyé pour nous enseigner. Donc, il faudrait que tous les organes reviennent à leur place. Et pas la prière du coq, entre guillemets, comme un coq en train de picorer. Il faudrait que tous les organes reviennent à leur place. Donc, comme il ne le faisait pas, on m'a dit, ta prière n'est pas valable. Et c'était un savant parmi les compagnons du prophète sallam. Quant à l'autre partie de la prière, quand il a vu Omar, il l'a fait pour Omar, il l'a pas fait pour Allah. Et Allah n'accepte pas un acte. Il a fait parce qu'il a craint le fouet de Omar, ou son bâton plutôt. Son bâton, il l'accompagnait souvent. Qu'Allah lui fasse miséricorde, et il faisait partie, et qu'Allah l'agrée, il faisait partie, donc, des gens pour qui le prophète sallam a annoncé le paradis, et également il faisait partie des gens qui ordonnaient le bien, interdisaient le mal. En tant qu'amir, il se devait de changer un mal qu'il voyait, le faible amable qu'il voyait, de sa main. Celui qui le voit, qui le change de sa main, et ça fait partie donc, il y a le chef de l'État, ou l'amir, il y a celui qui est responsable d'une chose, dont le chef de famille, etc., etc. Donc Omar se doit, se devait en tout cas, de corriger ce qu'il voyait de la langue, yani de la main, en fonction de la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donnée en pareille circonstance. Et Omar n'était pas comme nous. On dit que, comme on dit, hadith authentique a rappelé que le prophète a dit, après les prophètes, il y a des inspirés, que Allah inspire, et donc, si Allah inspire, bien sûr, c'est la vérité. Et après moi, s'il y avait un inspiré dans ma communauté, ça aurait été Omar. Qu'Allah l'agrée. Combien de fois il a anticipé le Coran. Il y a Rasulallah, au prophète d'Allah, et si tu faisais ceci, et si tu faisais cela, et Allah révélait au prophète sallam l'équivalent ou le sens de ce que Omar lui avait suggéré. Et ça, c'est les croyants. Et c'est pour cela que la proximité d'Allah est si importante, pour nous comme pour les autres. Parce que si tu es proche d'Allah, il ne peut t'arriver que de bien. Parce qu'il a déclaré la guerre à celui qui s'attaque, à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses amis, ou un de ses rapprochés, ou un de ses alliés. Et quand Omar en faisait partie, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Ceux qui ont écrit, ceux qui ont parlé de ce dont ils ne savaient pas. Et Allah l'a aimé, et Allah lui a accordé le paradis. Donc, pour revenir à notre sujet, Allah dit, « وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ » Un verset que l'on connaît, pratiquement tous, de la sourate 98, Al-Bayyina, on ne l'a ordonné que d'adorer Allah en purifiant « مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ » en lui vouant un culte exclusif. Donc, quand on parle de ici sincérité, en français, on peut dire que c'est le sidq, on traduit le sidq par la sincérité, et on traduit également al-ikhlas par sincérité. Mais en réalité, aujourd'hui, on parle de al-ikhlas, on ne parle pas de sidq. En arabe, khalasa, donc ikhlas vient de là, c'est le fait de purifier. Quand il y a un habit sale, le fait de le laver, tu enlèves les saletés. Quand tu as de l'or ou un métal que tu fais fondre, tu as l'impureté qui s'enlève et qui flotte. Et c'est d'ailleurs l'exemple que Allah donne, subhanahu wa ta'ala, et qui est celui du croyant. Tout ce qui nous arrive est du bien, simplement si on le savait. Allah nous met dans des situations, la peur de l'autre, l'espoir sur l'autre, les épreuves que tu as ne sont faites que pour ton bien. En fait, Allah enlève, et très bel exemple dans la sourate Al-Baqara, surtout le début, par rapport aux hypocrites en particulier, Allah donne ce très bel exemple, le fait qu'il compare ça et à l'éclair et au tonnerre, etc. Le croyant sait que le tonnerre est nécessaire pour qu'il y ait de la pluie. Il faudrait que tu t'en rappelles. Et pourquoi Allah me fait ça? Et pourquoi je n'ai pas ça? Et pourtant je prie, et pourtant je jeûne. Subhanallah, wa bihamdihi, Allah a-t-il besoin de ton jeûne et ton... Et tu pries pour qui? Tu pries pour toi-même. Tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour toi-même. Ce tonnerre, quand tu vois, et pourquoi il ne nous aime pas? Et pourquoi il m'arrive cela? C'est pour toi. C'est pour que tu saches, tu te rappelles d'Allah. Que tu saches que rien n'arrive dans les cieux, sur la terre, si ce n'est par sa permission. Et ensuite, tu sais qu'après la peur, il y a la quiétude. Il y a la paix. Et que Allah voit que les gens que Allah recrute parmi ces créatures, des témoins pour toi, il a été vraiment bousculé. Il a été vraiment éprouvé. Et pourtant, il est resté ferme. Allah veut juste pour prendre des témoins et pour ton bien, pour t'enlever les péchés, puisque tout ce qui t'arrive, Yanni, va soit t'enlever les péchés, si tu es patient, si tu es croyant, va t'enlever les péchés ou t'élever un degré. Donc ces épreuves sont faites justement. Chacun d'entre nous prétendra, on va jurer, on entend souvent, Allah sait que je suis sincère. Est-ce que tu es vraiment sincère? Donc ces épreuves sont là pour nous purifier. Allah aime les gens qui reviennent vers lui repentants, il aime ceux qui se purifient. Avant tout, c'est la purification. Il y a la purification matérielle, bien sûr, elle est comprise dans l'explication qu'on trouve chez les savants de ce verset 222 de la Sourate al-Baqarah. Allah aime des gens qui sont repentants et Allah aime les gens qui se purifient. Mais c'est surtout et avant tout qui se purifie le cœur. Il se purifie le cœur dans leurs actes. Donc, pour revenir à ce fameux verset 60 de la sourate 23, où Aïcha dit, Ya Rasulallah, est-ce que ce sont les gens qui mentent? Est-ce que ce sont les gens qui volent? Il a dit, oh non, fille du très véridictant, ce sont des gens qui ont prié, qui ont jeûné, et qui craignent que Allah n'accepte pas leurs œuvres. Qui craignent que Allah n'accepte pas leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de leur sincérité. Dans ce que tu fais, tu peux penser. Ceux qui ne pensent même pas à ça, encore plus, doivent craindre, comme nous. On a fait ceci, on a fait cela, on est content. Mais est-ce qu'Allah a accepté Ibrahim a.s.w. avec son fils Ismaël, quand ils ont été éprouvés, et les prophètes ont été les plus éprouvés, et quand ils ont levé la maison, qu'est-ce qu'ils disaient? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ô Seigneur, accepte ça de nous, tu es celui qui entend, qui exauce. Et c'est celui qui sait. Ça, c'est n'importe quel acte. Ce qu'il craint le plus, c'est que Allah, est-ce qu'Allah va accepter ou pas? Parce que quand l'acte n'est pas accepté, c'est vite réglé. Il n'y a même pas besoin de poser la balance. C'est zéro. Et c'est un péché. Jusqu'à ce que tu reviennes de ce que tu as associé à Allah. Ça ne fait pas sortir l'islam. Il faudrait quand même le préciser. Si la personne l'a fait pour Allah, elle croit à Allah, elle mérite le châtiment d'Allah dans ce bon monde et dans l'au-delà, Allah est miséricordieux, sa miséricorde l'emporte sur son châtiment. Mais, c'est un péché sur lequel on doit revenir. Qu'Allah nous pardonne, et le mot qui me vient avec l'âge, c'est que quand on pense à Allah, quand Allah veut qu'on pense à lui, je vous conseille de lui demander pardon. Le meilleur d'entre nous demandait 100 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il n'était pas négligent. Il n'était pas négligent. Et Allah a accepté de lui, il n'y a pas à en douter. Comment avec tous ses bienfaits, tout bienfait bien d'Allah, tu peux penser que Allah te doit quoi que ce soit? Tout ce que tu as, tout bienfait bien d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Demande aux gens qui ne voient pas, demande aux gens qui n'entendent pas, demande aux gens qui sont malades. Et un frère est venu vous demander des doigts. Il vient d'amener son épouse à la clinique pour qu'elle accouche. Il est venu demander des doigts. Donc j'en profite pour vous le demander, qu'Allah leur facilite et fasse miséricorde à nos mères et à nos femmes. Parce que heureusement, alhamdoulilah, que ce n'est pas nous. Parce qu'on est courageux. Tout est relatif. Mais on n'est pas téméraire. Hein. Allah sait où mettre son épreuve. Allah, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. Et à nos femmes aussi, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Allah leur a facilité, mais c'est quelque chose d'extrêmement dur. Ceux qui ont assisté à ça, certainement ont une idée, et une idée de ce à quoi je pense. Toujours est-il que ces épreuves, et l'important, c'est que Allah l'accepte. Que Allah l'accepte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il recherchait. Quand Ibrahim et Ismaël demandaient à Allah d'accepter d'eux, c'est parce qu'Allah n'a pas besoin d'eux. Il n'a besoin de personne, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui n'est pas fait pour lui seul, il ne l'accepte pas. Et ce qui est fait pour lui, Allah l'accepte. Quand Allah accepte une œuvre, c'est comme celui qui confie, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui confie le petit du cheval. De poulet, d'accord. Et un poulet, Et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève jusqu'à ce qu'au jour du jugement dernier, tu sois étonné de ce que tu as donné à Allah. Et pourtant, c'est grâce à lui et par lui que tu as pu faire cet acte-là. Et cet acte, tu en profiteras peut-être dans ce bas monde, mais en tout cas dans l'au-delà. Un acte pur. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et Allah éprouve les uns et les autres pour justement montrer à ces personnes elles-mêmes et au reste des mondes, et au reste du monde, cette sincérité-là. Et vous vous rappelez certainement dans le premier chapitre de Les Jardins de la Piété, Riyad al-Salihin, ou des pieux plutôt, le premier chapitre, il a consacré à l'ikhlas, la sincérité d'intention en Dieu. On va jurer souvent, on est sincère. Je vous dis, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la véracité. C'est la sincérité de l'intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que certains savants disent que c'est le tiers de l'islam. Innama al-amalu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par l'intention qui les anime à chacun selon son intention. Et qu'on précise, et vous le savez, mais qu'on précise à qui veut l'entendre, Allah parle des bons actes avec l'intention pure. Des mauvais actes, il n'y a pas de bonnes intentions. J'ai tué, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci, mais mon intention était bonne. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un acte qui est recherché, qui est admiré des autres, mais l'intention qui est derrière, que Allah seul sait. Quant au reste, tu n'as pas besoin de chercher des justifications. Allah ne l'accepte pas. Parce qu'Allah l'a interdit. Justement, c'est l'autre partie des conditions d'acceptation. Allah a tout permis, sauf ce qu'il a interdit. Toi, tu as fait l'interdit et tu lui demandes d'accepter. Là, ce n'est même pas la peine. Sauf si tu l'as permis dans des conditions extrêmes. Celui qui craint pour sa vie, Allah lui permet de manger du porc. Mais ça, c'est une autorisation d'Allah. Ce n'est pas, non, mais Allah sait que, bon, j'ai un faible pour la viande de porc. Alhamdulillah, garde ta faiblesse. Si, dans des conditions, parce que la vie l'emporte sur l'interdiction, sur la religion, Allah te permet dans certaines conditions de faire certaines choses. Je ne parle pas de ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais si dans ce qui est permis, c'est là où l'intention compte, et vous connaissez la belle histoire de ce hadith rapporté par Omar ibn Khattab, car la l'agré est consigné dans les deux, al-Bukhari et Muslim, car la façon américaine, où le prophète sallam dit, les actes ne valent que par l'intention qu'il est anime. Et à chacun selon son intention. Et comme il a rajouté, en donnant un exemple à l'Aïssalatu Salam, il ne parlait pas de lui-même. Celui qui, celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui émigre pour épouser une femme ou pour ce bas monde où épouser une femme, son émigration lui sera comptée pour ce pourquoi il a émigré. C'est un bel exemple, hein? Les gens, masha'Allah, c'était muhajir. Il a émigré. Il a émigré pour faire quoi? Il a été pour faire quoi? Allah seul le sait. Ce n'est pas nous de, non, celui-là c'est un hypocrite, il a émigré pour ceci et cela, tu es dans son cœur. Non, tu n'as pas à le juger. Par contre, qu'il sache qu'il ne peut pas tromper Allah. S'il l'a fait pour épouser une femme, ce n'est pas interdit. Hein? Ce n'est pas interdit. J'émigre pour aller dans tel pays parce que mademoiselle m'a dit que si je ne viens pas, elle ne va pas accepter. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Hein. C'est à cet homme, l'histoire que l'on raconte, qui n'a pas été vérifiée, comme les savants le disent. Mais on dit que quelqu'un a émigré pour une femme. Il y en a qui font bien pire pour une femme. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Là, qu'Allah nous fasse miséricorde. Et il a fait, la femme, elle a dit, si moi je vais à Médine. Si tu viens à Médine, je t'épouse. Mais si tu ne viens pas à Médine, je ne t'épouse pas. Et donc, alhamdulillah, je ne sais pas s'il a été à pied ou à dos de chamel. En tout cas, il a été à Médine et il a épousé cette femme-là. C'est quelque chose de permis. Mais c'est l'action, tu ne vas pas attendre à demain. Ah, Allah, j'ai émigré pour toi. Les gens diront, tu mens. Allah dira, tu mens. Tu n'as émigré que pour épouser et ça, tu l'as épousé. Donc, ce n'est pas... Ce qui est péché, c'est... Les gens pensent que... Les gens le font pour Allah. Et toi, tu le fais pas pour Allah. Et Allah seul le sait. Ou tu le fais pour Allah et quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'Allah n'accepte pas. Parce qu'il est le riche, celui qui se passe de tout. Et c'est... On dit que l'imam Shafi'i, qu'il a fait miséricorde, disait que ce hadith était... Il en a tiré, comme des mas'alas, 70 ou plus dans le fiqh. et que c'était le tiers de l'islam. Comme pour dire qu'il y a l'islam et ses piliers, etc., pour être musulman. L'autre tiers, c'est l'intention, la purifier. Et le troisième tiers, c'est le fait d'obéir à ce que le au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui obéit, obéit à Allah. Je vous assure, c'est une histoire, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Très belle histoire, qui ne m'a pas laissé indifférent. Et qui, pour moi, est importante que chacun se le rappelle. Vous savez qu'il y avait trois voyageurs qui ont été surpris par l'orage. Ils sont rentrés dans une caverne. Et ça, c'est une faveur d'Allah. Autrement, ils auraient été détruits, ou en tout cas très mouillés. Ils ont trouvé une grotte. Ils sont rentrés dans la grotte. Et Allah, qui ne fait que le meilleur, a voulu qu'une grosse pierre vienne bloquer la porte de cette grotte. Et ils ne pouvaient pas en sortir seuls. Il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas le 18. Tu téléphones, les pompiers, venez, nana. Il n'y en a pas. Donc, ils vont être enterrés avant même d'être enterrés. Personne ne va les enterrer, ils vont mourir dedans. Ils ne peuvent pas sortir. En se mettant à trois, ça ne change rien. Et Allah a inspiré, et il n'inspire que le meilleur. Un d'entre eux qui a dit, demandez à Allah par l'œuvre que vous pensez la plus sincère pour Allah. Je vous assure, et c'est pas par fausse modestie, quand j'ai lu ce hadith-là, j'ai essayé d'imaginer ce que j'ai fait sincèrement pour Allah, j'ai pas trouvé. Si vous en avez trouvé, alhamdulillah, priez pour moi. L'œuvre que vous n'avez faite que pour Allah. Que chacun d'entre nous, dans ce qu'il lit, et qu'Allah bénisse Yanni, celui qui a dit qu'il n'a pas fait une chose avant de penser à Allah avant. C'est vraiment l'idéal. Quand tu penses à Allah avant de faire une bonne chose, tu le feras que pour Allah. Nous, on est dans la troisième condition, c'est-à-dire, quand on fait une chose, après on dit, mais finalement, pour qui je l'ai fait? C'est pour la femme ou c'est pour... Quand tu fais une chose et que tu fais une chose et que tu penses à Allah grâce à Allah, que tu te demandes au moins, est-ce que je le fais pour Allah? Et si tu le fais pour, si tu le fais pas pour Allah, tu annules la chose et tu continues à le faire pour Allah. Ça, c'est la lutte, ça, c'est le djihad, nefs, que tu es là en train de, je veux faire ça, j'ai envie de faire ceci, Shaitan il te dit, non mais fais-le pour ceci, les gens ne sauront pas. Tu dis, non, je le fais pour Allah. Je le fais pour Allah. Ça, c'est comme le chef Othémi, rahimahullah, le disait quand tu es dans ta prière, Shaitan il t'amène et il te dit, non mais enjolive ta voix. Ou tu es en train de faire l'appel à la prière parce que tu dois le faire, et le mieux, c'est Allah seul sait quelle place il lui a donné, et il te dit, allez, mais bon, il y a ton beau-père derrière. Et puis il y a tout le monde, embelli. C'est pour cela que le vendredi, souvent, c'est plus joli que le fajr. Comme il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui entendent, Shaitan, il te pousse encore plus. Allez, c'est comme ça, ils verront au moins que, mashallah, ta voix, elle n'est pas mal. Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta voix? À quoi ça va te servir? Et Cheikh Othamin, il disait, à ce moment-là, tu vas continuer et tu vas te réfréner et tu vas dire, je le fais pour Allah seul, et tu continues ton acte. Mais si depuis le début, tu veux montrer aux gens que tu chantes bien ou que tu as une belle voix, ne compte pas sur Allah pour te récompenser, sinon parce que tu mérites. Ce n'est pas une bonne action. À l'intérieur, quand tu veux faire la bonne action, il va vouloir t'influencer. Et là, tu vas continuer tout en faisant l'acte, et surtout tu ne l'abandonnes pas. Ça, c'est un autre piège de Shaitan, disent les savants. C'est qu'en disant, non, mais je vais, finalement, je ne vais pas le faire. Parce que s'il va te dire, non, ne le fais pas, si tu le fais, les gens vont te regarder. Bon, mais quand je rentrerai, je le ferai. Et quand tu rentres, bien sûr, tu auras autre chose à faire. Le match n'est pas fini, ou tu trouves des soucis, ou je ne sais quoi d'autre, finalement, tu ne l'as pas fait. Et comme une fois, on s'est dit, ah, mais je voulais faire ça, j'ai oublié. Ou je voulais faire ça, Shaitan m'a fait oublier. Donc, quand Shaitan te dit, ne le fais pas parce que les gens vont te voir, ça va être de l'ostentation, tu le fais quand même en purifiant et en ton cœur. Surtout, tu le fais. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire les nawafil à la mosquée ou des choses comme ça. Le professeur m'a dit, la meilleure prière surrogatoire, c'est ce qu'on le fait à l'abri des regards. La prière surrogatoire, elle est récompensée plus que la prière obligatoire, la prière obligatoire, enfin, en public. La prière obligatoire en groupe est de 25 à 27 fois supérieure et meilleure que la prière seule. Mais la prière surrogatoire est de 25 à 27 fois mieux seuls que la prière en groupe. Et on le dit souvent aux frères, mais bon, dès là, ils ont pris des habitudes, ils préfèrent le faire ici, comme ça, ils vont directement, ils vont se coucher, ils font le huitre en particulier, sauf quand, bien sûr, tu ne peux pas. Sauf quand tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu es venu faire la prière du dehors, par exemple, et tu dois aller travailler, et tu sais que tu ne vas pas rentrer à la maison, ou des choses comme ça, Shaitan va te dire, non, non, ce n'est pas bien de le faire devant tout le monde, ils vont te regarder. Finalement, tu ne vas pas le faire du tout. Donc là, tu le fais, et avec sincérité, si c'est possible, avec classe, malgré cette tentation-là. Mais sinon, le mieux est, pour éviter ça justement, tu te mets derrière un pilier. Si tu as un peu de temps, tu attends que les gens partent, etc. pour pouvoir y aller le faire le plus sincèrement possible. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Allah mettra sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre. Celui qui tout seul pense à Allah, le craint et se met à pleurer. Devant les gens, c'est facile de pleurer. Hein? Il suffit de prendre un peu de piment. Ou d'élever la voix, tu entends, quand l'imam commence à réciter, tu entends des sanglots, alhamdulillah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit sincère. Mais tout seul, il va falloir que tu te pinces. Hein. Souvent, il va falloir que tu te pinces et que tu n'aies pas beaucoup dormi pour te mettre à pleurer. Et pour cela et pour autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, fait que cela, il va les couvrir de son ombre ou l'ombre de son trône, le jour où il n'y aura d'autre ombre que son ombre. Je reviens donc à l'acte qui est bénin, mais que Allah aime. Ces trois personnes, le premier, comme vous le savez, c'était quelqu'un qui dit « J'avais deux pères et mères. » Père et mère qui avaient atteint un certain âge. Et je suis berger. Je vais récupérer du lait et je viens leur donner du lait avant de donner à mes enfants. Ça, c'est pas maintenant. Vous pouvez résister, vous. Les enfants en ont plus besoin, qu'est-ce que tu en sais? Et les parents, encore les parents. Qu'ils soient humiliés, qu'ils soient nés traînés par terre, celui qui a l'un de ses deux parents, qui n'en profite pas pour entrer au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'en as que deux, tu ne peux pas en changer. Tu ne choisis pas ton père, tu ne choisis pas ta mère, ils ne te choisissent pas non plus. Hein. Un jour que j'étais venu, que j'ai été retardé, j'ai trouvé qu'ils dormaient. Et mes enfants, on ne dirait pas, pleuraient de faim. Et je suis resté. Je n'ai pas donné un coup de pied. Je suis resté. Je n'ai pas donné à mes enfants. Je suis resté debout, à veiller sur eux en attendant qu'ils se réveillent pour ne pas les déranger, pour leur donner du lait. Alors que les enfants sont en train de pleurer. Jusqu'au petit matin. Oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, fasse que la grotte s'ouvre. Et c'est un peu ouverte. Vous qui avez père et mère, ou père ou mère, qu'Allah bénisse notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, tout le monde rentre au paradis, sauf celui qui n'aime pas, sauf celui qui ne veut pas. Il dit, mais comment on ne veut pas? Il dit, celui qui m'obéit, il rentre au paradis. Celui qui m'aura désobéi, il entre en enfer. Ça a l'air de rien. C'était pas l'imam de la mosquée de la Mecque. C'était pas quelqu'un qui a construit. C'est pas quelqu'un qui a fait faire le Hajj à 10 à 50 personnes. C'est pas quelqu'un qui. Non. Simplement, il l'a fait pour Allah. Pour Allah seul, il l'a fait. Et Allah seul sait qu'il l'a fait pour lui. Encore une fois, c'est pas la quantité. C'est la qualité de l'acte. Allah t'éprouve. Ce sont tes pères et mères. Et tu sais bien que si tu les prenais tous les deux, tu pourrais les porter. Peut-être chacun dans un bras, parce qu'ils sont devenus faibles, qu'ils ont besoin de toi alors que tu as eu besoin d'eux, qui t'ont porté, ta mère t'a porté, ton père a tout fait pour subvenir à tes besoins. Et aujourd'hui tu les craches dessus ou tu passes à côté. Leurs besoins, c'est leurs besoins, ils ont fait leur temps. Quant aux enfants, on en a plus besoin. Occupe-toi de ça, tu verras, quand tu seras vieux, Inch'Allah, Allah va te mettre dans une maison de retraite et encore, dans un EHPAD et encore, si tu en as. Où tu vas mourir tout seul dans le désert. Et tu sauras qu'Allah n'a besoin de rien. C'est un acte bénin, subhanallah, c'est un acte bénin. Mais comment tu vas le faire? Le père, il dort, il ne sait pas. Mais Allah sait. Allah sait. Tu te caches de qui? La mère, c'est pareil. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans que tu dois agir autrement. أن تشرك بك شيء وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Et si tu pousses à m'associer ce dont tu n'as pas de science et tu n'en auras jamais, ne leur obéis pas, mais accompagne-le dans cette vie de la meilleure des façons. Et tu as ton père et ou ta mère et tu n'en profites pas pour entrer au paradis, c'est que tu as vraiment refusé et que tu n'as vraiment pas à ni profiter de cette chose-là, de cette occasion qu'Allah t'a donnée. Et s'ils sont partis, qu'Allah leur fasse miséricorde, au moins prie pour eux. Il se peut que Allah inspire tes enfants pour qu'ils prient pour toi. Et le deuxième, et ce n'est pas le plus simple, le deuxième qui dit qu'il avait une cousine ou une femme, une fille qu'il aimait comme on peut aimer quelqu'un. Et surtout avec les jeunes, avec la jeunesse. Et il lui a proposé, bien sûr, ce qu'Allah a interdit, la fornication, et l'a refusé. Alhamdulillah. Alors que lui, par contre, il était animé par son shaitan. Allah a donné la force à sa cousine de refuser. Et ce n'est pas forcément les femmes qui poussent les gens à la zina. Souvent, c'est les hommes qui sont derrière. Et ils sont tous les deux faibles. L'homme a été créé faible et voilà que les deux tombent dans la fornication. Si Allah l'a interdit, c'est que c'est mauvais. Et il a facilité le mariage, jeunes gens. Ceux d'entre vous qui ont la capacité de se marier, qui se marient. C'est mieux pour le fait de baisser les regards et d'être chaste. Et ceux qui ne peuvent pas, qui patientent en jeûnant. Jusqu'à la fin du hadith. Tout étant permis, dans cette société, on oublie. Allah n'a rien interdit que ce qui est mauvais. On peut trouver les excuses ou les prétextes qu'on veut. Allah n'a rien interdit que ce qui est mauvais. L'honneur, il l'a rendu sacré, c'est l'une des cinq choses qu'il a rendu sacré, et parmi cet honneur, il y a ça. Et il y a certains qui transforment ça également en sixième, qui est le nasab, qui est la généalogie. Dans le monde animal, tu vas trouver, chacun va avec tout le monde. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de tante, il n'y a rien. Sauf le chef de la tribu qui se réserve. Et donc, il a une femme, une cousine, belle comme tu peux l'imaginer. Et il l'aimait. C'est une tentation. Et Allah te met à l'épreuve. Est-ce que c'est elle qui aime, que tu aimes, ou c'est moi? Tu prétends aimer Allah, et en réalité, tu aimes ta cousine certainement, ou ton cousin plus que Allah, puisque tu vas, et tu vas faire ce qu'Allah a interdit. Et elle va te dire, ne bouge pas. Et je suis sûr que tu vas rester jusqu'au matin, debout. Tu ne donnes même pas une chaise. Tu restes dans les blocs pendant combien de temps, en train d'attendre, toujours en train de regarder ton téléphone. Est-ce qu'il m'a envoyé un SMS? Est-ce qu'il m'a envoyé un SMS? On te dit de faire la prière, en 5 minutes, tu as tout fini. Tu n'es pas patient pour ça. Et tu dis que tu aimes Allah. C'est possible. Toujours est-il que... Et il a proposé le haram et elle a refusé. Et Allah l'a éprouvé. Elle était dans la nécessité, on dirait absolue. Elle avait besoin d'être aidée matériellement, de l'argent. Elle vient voir ce cousin en disant, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ou me donner de l'argent? Il dit oui, bien sûr, à condition que tu acceptes le haram. Et là, elle est dans une position qu'on peut imaginer. Beaucoup d'entre nous en trouveraient une excuse. Je n'avais pas le choix. J'étais endetté. Lui-ci était là. J'ai pas de quoi payer le loyer. J'ai pas de quoi. Et c'est ça qui justifie ta désobéissance à Allah. Allah n'a pas chargé une âme plus que ce qu'elle ne peut supporter. Et nous, on l'a compris, ce hadith, ce verset. C'est Allah sait hein, que je peux pas supporter. Non. Allah, s'il t'envoie une épreuve, c'est que tu peux la supporter. Si tu peux pas la supporter, tu l'aurais pas envoyé. Est-ce qu'il ignore ta situation? Et voilà qu'elle accepte. Et au moment de désobéir à Allah, elle dit, jeune homme, crains Allah. Crains Allah. Elle ne lui désobéit pas. Et l'homme, Allah dans sa miséricorde, lui a inspiré ça, son obéissance. Il a arrêté la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a laissé à cette femme, c'est que il lui avait donné. Ya Allah, si c'est vraiment pour toi que j'ai fait ça, parce que la grotte s'ouvre. Elle s'ouvre encore un peu et elle ne, ça ne leur permet pas de sortir. C'est peut-être une des sagesses pour lesquelles Allah met parmi les sept qui seront sous l'ombre, cette catégorie, celui à qui une femme belle et noble se propose pour faire l'interdit, et il dit « je crains Allah ». Mais dans l'exemple que le professeur a donné là, c'est plutôt un homme beau et je ne sais quoi d'autre qui propose, et c'est la femme qui dit que je refuse. Et ils seront sous l'ombre du trône au jour du jugement dernier, le jour où la sueur va atteindre la cheville, le genou, la ceinture, même noyer certains à cause de leur péché. Ça paraît facile. Wallahi, c'est pas facile. Et surtout, ne jette pas la pierre, comme on le fait dire à Jésus, alayhi salam. Hey, regarde, il fait ceci. Et toi? Allah l'a éprouvé avec ça. Comme ça, on traquette. Et toi, tu as été éprouvé par autre chose, notamment ta langue. Si tu pouvais la tenir, serait mieux pour toi. Et regarde, celui-là, il fait ceci. Toi, si tu étais à sa place, peut-être que tu aurais fait pire. Prie pour lui, qu'Allah le guide. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ordonner le bien et interdire le mal. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, ce que disent les savants, c'est que tu n'as pas à juger quelqu'un d'autre, sauf sur l'apparence des actes. Allah a interdit ce qui est mauvais. Ce qu'il fait, tu ne peux pas l'accepter. Mais de là à croire ou à le maudire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour quelqu'un qui a bu et qui est sorti ivre et qu'on a arrêté et on lui a appliqué la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quelqu'un qui est en train de frapper dit qu'Allah te maudisse. Il a dit, n'aide pas Shaitan sur lui. Est-ce que tu ne sais pas qu'il aime Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam? On peut aimer Allah et son prophète et faire des erreurs. C'est pas parce que quelqu'un fait ceci, c'est là que tu la condamnes à l'enfer. Ou que tu le condamnes à l'enfer. Prie pour lui. Je peux que les anges prient pour toi. Et qu'à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Mais encore une fois, ce n'est pas une petite épreuve. Tout est relatif. Alhamdulillah, comme on disait hier, le barème n'est pas unique. Allah juge et il est le seul juge. Et il est équitable. Et il est juste. Chacun d'entre nous aura son barème. Moi, je fais ça, lui, il ne fait pas. Alhamdulillah, tu seras jugé et de façon juste. La personne sera jugée et comme on le disait avec les jeunes ce matin, il se peut que, comme l'a dit le prophète sallam, il y a Omar, Khatib ibn Balta a fait Uhud, plutôt a fait Badr. Il se peut que Allah ait dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Celui que tu juges, il a peut-être une petite action que Allah a acceptée. Et à cause de ça, peut-être qu'Allah lui a tout pardonné. Comme une fois le prophète m'a dit que Othman fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. Parce qu'il sait ce qu'Allah lui a enseigné. Et toi, jeune, fougueux, ignorant, ennemi de Dieu, ennemi de toi-même, ils ont égorgé Othman. Parce qu'il n'a pas été juste. Ah, c'est toi qui es juste maintenant. Celui à qui le prophète m'a dit qu'il fasse ce qu'il veut, et wallahi, Othman, il est au paradis. C'est le prophète qui l'a dit. Et il n'y a pas de doute dessus. Et toi, tu le juges et tu vas l'égorger. Parce que c'est haram ce qu'il a fait. Il n'a pas été juste. Il a... Subhanallah wa bihamdihi. Et à cause de ça, tu risques l'enfer. Yani, direct. Et le troisième, qui peut paraître facile, n'est pas du tout facile. C'est celui qui dit, j'avais des employés. Et ça, ça nous concerne. Ça vous concerne surtout, vous musulmans. On veut aider nos frères, mais souvent, c'est une catastrophe, comme je le dis souvent. On veut aider nos sœurs, souvent c'est une catastrophe. Au point que les frères et les sœurs disent, moi je ne veux pas travailler avec un musulman. Voilà, au dobillah. J'avais des employés. Un jour, il y en a un avec qui il s'est accroché, comme ça peut arriver, et il est parti, sans prendre son salaire. Et il est revenu bien plus tard, en disant... Je suis dans le besoin, donne-moi mon salaire quand j'ai travaillé pour toi. Il a dit, regarde, ce qui est entre les deux valets, ça t'appartient. Il dit, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Je demande juste mon salaire. Il dit, ton salaire, je l'ai investi. Allah l'a béni et tous les animaux qui sont là t'appartiennent. Je lui dis, si tu as déjà une base, c'est pas mal. Hein? Et puis comment il va le savoir? C'est moi qui ai investi, hein? Je les ai amenés dans le prêt. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ça vient de quoi? C'est ton argent? C'est pas ton argent. Tu l'as fait à partir de très peu et Allah l'a béni. Non. Parce qu'il craignait Allah. Ya Allah, si j'ai fait ça pour toi, parce que la grotte s'ouvre et la grotte a fini de s'ouvrir. La pierre a fini de s'ouvrir, c'est facile à Allah, c'est lui qui l'a créé. Il a dit au feu de ne pas brûler, Ibrahim n'a pas brûlé. Il a dit, kun fayakun, Adam a été créé de ce... Quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Walillahi alhamd. Et c'est pas facile. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, Allah le voit et il y a les scribes qui sont là pour l'écrire. Allah n'a pas besoin d'ange, il n'a besoin de rien. Et tout ceci sera écrit et tu auras à rendre compte à moi qui te compte parmi ceux qui rentrent au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Et ça paraît impossible, non? Allah a des témoins, des gens à qui il a donné la sincérité. Et ne sois pas comme ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans nombre de versets. Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui. Allah l'ilahi dinul khalis. Je te renvoie, si tu doutes de ta sincérité, de lire la surat Az-Zumar en particulier. Allah insiste beaucoup dessus, la 39. Allah l'ilahi dinul khalis. N'est-ce pas que la religion pure appartient à Allah? N'est-ce pas que Allah mérite d'être adoré de façon unique, lui seul, et ne rien lui associer, y compris dans l'intention? Si tu as le souci quoi que ce soit dans l'intention, Allah se passe de tout et il ne l'accepte pas, ton adoration. Ce que tu as fait, il te le renvoie. Et c'est un péché, et bien sûr la récompense chez lui, c'est zéro. Dans chacun de nos actes, chacun doit voir ce pourquoi il a voulu faire cette chose ou pas. Dans chaque chose. Déjà, l'avantage, c'est qu'alhamdoulilah, ça te permet de ne pas faire n'importe quoi. Ça te permet de revenir chaque fois que tu veux faire une chose, de penser et de vouloir le faire pour Allah avant que tu ne le fasses pour autre que lui, y compris pour toi-même. Que tu lui associes quoi que ce soit. Et donc, au jour du jugement dernier, il y a des gens qui seront surpris. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne les vois pas. Tu ne les vois pas parce que Allah les a réduits à néant. Zéro. Et donc avec ces hadiths et nombre de versets, les conditions pour que Allah accepte une œuvre sont de trois. L'islam, c'est pour cela qu'il n'y aura pas de balance pour ceux qui sont morts en dehors de ça. Parce que zéro sur un, c'est zéro. Zéro sur un milliard, c'est zéro. On dit, on a vu ça ce matin, il ne fera que les compter et les dénombrer en montrant ce qu'ils ont fait comme péché. Et le plus grand péché, bien sûr, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça suffit. Et les bonnes actions, quelles qu'elles soient, ne pèseront pas lourd par rapport à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dire la ilaha illallah, ça veut dire que tu n'adores qu'Allah subhanahu wa ta'ala, commencé par la connaissance, certainement, mais il y a également, dedans, parmi les huit conditions, il y a al-ikhlas. La sincérité. Si elle manque, ou ils traduisent ça par fidélité aussi, si elle manque, Allah ne l'accepte pas. Et donc, c'est cela, il a la si manque dans une action destinée à Allah, Allah ne l'accepte pas et le résultat est nul. Même si tu venais avec une montagne de bonnes actions que Allah a acceptées par ailleurs, cet acte en tout cas n'en fera pas partie. Et tu seras surpris. Et cet acte, cette sincérité, te fait compter dans ce bas monde parmi les gens qui, quand ils appellent Allah, comme on a vu par rapport aux gens de la grotte, quand ils appellent Allah, Allah répond. Mais surtout, Allah t'ordonne. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ صَلَاتِي mes prières, وَنُسُكِي mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah seul. C'est-à-dire que quand je le fais, je le fais que pour Allah. Je le fais pas pour qu'on dise que, bien que, on le dira. Celui qui cherche l'agrément d'Allah, a dit le prophète sallam, Allah lui accorde son agrément et les gens vont l'agréer. Celui qui cherche autre que l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'agrément des gens, ni l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire que vous le montre, vous avez peut-être pu le constater vous-même. Celui qui veut faire des choses pour les autres, je vous assure, il encourt le dédain même des autres. Moi, j'ai des exemples en tête. Pour plaire aux gens, tu peux faire ce que tu veux, tu ne plairas pas aux gens. Parce que Allah va mettre dans leur cœur, va leur montrer que tu es quelqu'un de léger, quelqu'un qui ne se respecte pas. Et les gens ne peuvent pas te respecter. Et quelle que soit la divergence d'opinion ou de croyance, si tu fais des choses et que tu es quelqu'un à qui que Allah aime, certainement les gens ne vont pas tarder à le reconnaître. Et c'est ça, c'est le résultat de ta fidélité, de ta sincérité vis-à-vis d'Allah. Tu peux chercher à plaire à qui tu veux. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ton acte, tu ne seras pas heureux ni dans ce moment ni dans l'au-delà. Donc je m'étais promis de ne pas dépasser l'heure. Inch'Allah, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et si vous avez des questions ou des compléments, je suis prêt à les entendre et à les partager avec vous, inch'Allah.